Midi 1. Mariam, matin famille.
Et vous êtes toujours avec nous en direct également sur Medien.com. Merci à vous de votre fidélité. Alors on le disait donc en début d'émission, ce matin on parle également de ce cerclage du col utérin. Alors c'est la procédure donc chirurgicale qui est faite pendant la grossesse. Objectif, permettre donc de prévenir les accouchements prématurés. Alors pour en parler, pour essayer de comprendre cette procédure, on reçoit pour vous, docteur Besma Koubaïti. Bonjour docteur.
Bonjour Mariam et bonjour à tous les fidèles auditeurs de Média.
Vous êtes avec
toujours
nous.
C'est un plaisir
c'est
d'être
un plaisir.
Sur les ondes.
Merci beaucoup, merci à vous. Alors vous êtes avec nous en direct depuis Rabat, vous êtes gynécologue obstétricienne, merci beaucoup encore une fois. Alors d'abord, je le disais donc, ce cerclage du col utérin, comment le définir?
Alors le cerclage reste une procédure chirurgicale. Le but c'est de placer une suture autour du col de l'utérus, afin de réduire le risque d'accouchement tardif et d'avortement tardif et d'accouchement prématuré. Pourquoi ? Normalement, il faut savoir que durant la grossesse, le col reste fermé et dur jusqu'au terme. Mmh. Il va commencer à se raccourcir et à se détendre, donc il va subir des modifications naturelles une fois le terme arrivé.
D'accord.
Pour se préparer à la naissance. Donc ça ne doit pas se faire trop tôt. Quand ça se fait trop tôt, soit on a un avortement tardif quand les choses se font avant 28 semaines, c'est-à-dire avant le 7e mois, soit on parle d'accouchement prématuré à partir du 7e mois.
D'accord. Alors, comment est-ce que la méthode agit-elle justement, docteur Koubaïti?
Alors, normalement, la méthode va agir de telle sorte à renforcer et à solidifier ce col qui est flasque. Donc, en général, la suture seule n'est pas suffisante. Il faudra assurer suture. Suture du col, il faudra assurer dépistage de toute infection qui peut déclencher également des contractions et un ralentissement de l'activité physique. Donc en fait, on va combiner plusieurs méthodes.
Est-ce qu'il existe finalement des contre-indications, des risques à cela, docteur?
Alors oui, le fil est un facteur extrinsèque. Donc c'est quelque chose qu'on va venir et qu'on va placer, c'est un corps étranger. Donc il faut le placer en dehors de toute infection. Donc on ne placera pas un cerclage sur un terrain infecté. Donc des analyses seront faites avant l'intervention. Et bien sûr, il y a non seulement des contre-indications, mais également des risques. Donc c'est pas anodin. On ne viendra pas placer un cerclage à toutes les femmes qui ont fait au moins une fausse couche ou un accouchement prématuré. Donc il y a des indications bien précises. Mmh. Il y a un diagnostic qui doit être posé au préalable correctement pour éviter les risques, car il y a un risque de rupture des membranes, de saignement, il y a un risque de contraction, un risque infectieux qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure.
D'accord. Alors, cette question revient très très souvent. Est-ce que c'est douloureux, docteur?
Alors, le cerclage en lui-même n'est pas douloureux. Il ne l'est pas pendant la pose parce qu'on le fait sous anesthésie, soit une petite anesthésie générale, soit une anesthésie locale en fonction des réanimateurs avec lesquels on va travailler et du choix de la patiente après concertation. Et même par la suite, en général, la dame peut rentrer chez elle dans les heures qui suivent l'intervention. On va lui demander de se rester au repos quelque temps avant de reprendre une activité qui est très limitée par contre.
Est-ce qu'il existe des alternatives donc à ce cerclage, docteur Koubaïti, avant de parler donc de résultats et de taux de réussite, est-ce qu'on peut parler d'alternatives?
Il n'y en a pas.
D'accord.
À part le repos strict au lit et l'usage de médicaments tocolytiques pour arrêter les contractions, il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire que parfois, on met en place toutes les thérapeutiques médicamenteuses avec un repos strict au lit sans aucun effort associé. Et malgré cela, la fausse couche tardive ou l'accouchement prématuré risque d'avoir lieu.
D'accord.
Donc dans certains cas, le cerclage permet d'améliorer le pronostic, de prolonger la grossesse. Parfois, certes, il existe des échecs et on se retrouve à devoir faire un décerclage en urgence. Sinon, on s'expose au risque de déchirure du col, voire la faute de rupture utérine. Donc, avant de poser un cerclage, il faut bien poser l'indication. Il faut éduquer la patiente au risque infectieux. Donc, elle doit être rigoureuse dans son hygiène au quotidien. Elle doit faire son bilan mensuel. Elle doit faire son suivi régulièrement ses contrôles chez son médecin et elle doit être avisée et devant toute douleur consultée pour éviter les complications graves.
Rappelons donc les indications une dernière fois, docteur.
Le cerclage sera indiqué en cas de béance du col.
D'accord.
Et non pas devant tout accouchement prématuré secondaire à une infection, à une rupture de la poche des os prématurée. D'accord. Donc il y a un diagnostic qui va être fait au préalable. On va mesurer la longueur du col au premier trimestre. Bien sûr, c'est en général des femmes qui vont venir chez nous, qui ont eu un avortement au 5e mois, 6e mois, qui ont un accouchement prématuré au 7e mois. Donc là, il faut rechercher les causes physiques.
Oui.
Donc on mesure la longueur du col, on va éventuellement demander une radio des trompes. Le but de l'hystérosalpingographie, c'est de montrer cette béance de l'orifice du col. Et on peut également pratiquer au cabinet un test aux bougies. Et on recherche un ressaut au passage des bougies. Les bougies, ce sont des petits tubes de taille variable qui vont partir de 3 mm jusqu'à 10 mm. Et parfois, on fait passer une bougie à une certaine taille et on a un ressaut, c'est-à-dire elle passe, elle ressort facilement, sans blocage.
D'accord.
D'accord. Alors, quand est-ce que cette béance peut s'observer? Il faut savoir que cette béance, elle peut être congénitale, c'est-à-dire la patiente naît avec cette béance.
D'accord.
Et parfois, elle peut être secondaire à une intervention chirurgicale sur le col, notamment les patientes qui ont des infections à HPV avec des lésions très cancéreuses que l'on a dû enlever par amputation du col, donc une conisation, une IVG, donc une interruption volontaire de grossesse ou une aspiration mal faite avec dilatation traumatisante du col et qui a entraîné un élargissement de l'orifice interne du col. Parfois, on a une déchirure du col au cours d'un accouchement, donc le col s'est déchiré, il est devenu incompétent, c'est-à-dire il n'assure plus son rôle de bouche, d'accord. Et parfois, on a certaines malformations utérines donc, qui sont à l'origine d'accouchements prématurés. Donc, on va cercler pour essayer de gagner du temps. Puis, il faut savoir que le cerclage doit être fait de façon prophylactique de préférence, c'est-à-dire en dehors de toute urgence. On le fera au premier trimestre, entre la 12e et la 15e semaine, après bilan complet, bilan infectieux, et après avoir éduqué la patiente. Mais dans certains cas, on sera amené à faire un cerclage en urgence, un cerclage dit à chaud, c'est-à-dire au-delà du premier trimestre, entre la 16e et la 24e semaine. Parfois, des patientes se présentent à leur consultation au deuxième trimestre, et quand on fait notre examen, on trouve un col qui est ouvert. Donc, on fait un cerclage à chaud avec un bilan, une prescription d'un repos strict. Mais là, le taux d'échec peut être un peu plus élevé que quand on le fait de façon préventive à froid.
D'accord. Alors justement, on y arrive, ce taux de réussite, ces résultats, sont-ils souvent satisfaisants, on va dire, docteur?
Alors déjà, si on revoit un petit peu la littérature et ce qui se dit au niveau des différentes écoles de médecine, les résultats sont assez controversés.
D'accord.
Parfois, ils disent que le repos strict est suffisant à lui seul, mais les études disent également que le cerclage permet de mener les grossesses à terme et améliore le pronostic et réduit le risque d'accouchement prématuré. Donc oui, on va donner cette chance à cette femme et on va lui faire son cerclage, mais on ne le posera pas sans diagnostic évident et sans preuve suffisante. C'est-à-dire qu'on ne le posera pas comme ça. Il faudra qu'il y ait un minimum d'antécédents, au moins 2 fausses couches tardives, avec des images échographiques parlantes ou une hystérosalpingographie comme preuve. Donc, pour faire un geste qui est dit médical, thérapeutique, et non pas juste pour faire subir une patiente un risque, une chirurgie avec anesthésie et un risque derrière.
D'accord. Alors, vous avez parlé de ce qu'il faut faire en amont. Maintenant, que faut-il éviter parallèlement? Donc, docteur Basma Kobeti, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne. Ces choses à éviter lorsqu'on a dû faire donc justement ce cerclage.
Alors, l'activité sera limitée en post-cerclage. Donc, le repos strict au lit n'est pas obligatoire dans tous les cas, mais dans certains cas, quand la grossesse est vraiment à risque, on sera amené à mettre un repos strict au lit.
D'accord.
Mais la femme, en général, peut avoir une activité physique limitée, quelques petites tâches du quotidien, prendre une douche légère, se déplacer à la cuisine, mais on va limiter et éviter les trajets longs en voiture. Donc on devra revoir un peu avec elle ses conditions de travail, si le trajet est long, qu'il dépasse 10-15 minutes en voiture, ou s'il est fatigant, si elle a une position debout prolongée au travail par exemple, ou si elle a une activité physique qui nécessite le port de charges lourdes, ben à ce moment-là on la mettra au repos à la maison. Oui. Dans des cas où le cerclage seul n'est pas suffisant, d'accord, la femme sera mise en association cerclage sous traitement médical pour oui. arrêter les contractions, ou sous antispasmodique, d'accord. Donc on aura recours à des tocolytiques, de la progestérone ou à des antispasmodiques, mais c'est du cas par cas, donc il n'y a pas de règle générale.
D'accord, et il n'y a surtout pas d'alternative, vous l'avez dit, je pense notamment à toutes ces femmes qui seraient sceptiques et qui ont du mal à sauter ce pas. Donc quand le docteur prend la décision, il faut suivre en général.
Exactement, de préférence, pour se donner plus de chance oui. et éviter surtout le traumatisme psychologique lié à la fausse couche tardive et à l'accouchement prématuré, avec toutes ses conséquences sur le bébé et les conséquences physiques, émotionnelles, psychiques et aussi financières. Oui. Et le risque aussi, le risque, la prématurité, c'est tout un risque. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà discuté avec un pédiatre sur les ondes, mais oui. la prématurité oui. a ses risques et ses complications. C'est vrai, la prise en charge thérapeutique des prématurés a beaucoup évolué, mais les risques sont toujours là. Bien et sûr. Parfois, on a des prématurés qui tiennent le coup pendant 1, 2, 3 semaines et que l'on perd la 4e semaine. Et c'est encore plus lourd parce qu'on a donné de l'espoir au couple et au final, leur annonce des nouvelles négatives. Tout comme on a des prématurés qui naissent très tôt, qui sont de faible poids et qui sont super costauds et qui arrivent à tenir le cap et à rendre heureux le pédiatre et les parents aussi. Tous deux.
Absolument, et on restera sur cette jolie note positive. Merci beaucoup, docteur Basma Koubaïti. Vous êtes gynécologue obstétricienne à Rabat. Vous étiez avec nous en direct sur Médien. Merci encore.
Au plaisir, et à très vite sur les ondes Médien.
À très bientôt. C'est un entretien réécoutable à la demande sur notre site médien.com.